RMC Intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
Avec Serge Simon, avec Sarah Pitkowski, on n'oublie pas le foot, la Ligue 1, deuxième journée en cours et le match entre Guingamp et Marseille, très animé, Xavier Grimaud.
Oui, très animé, surtout pour les Guingampais, 13 minutes de jeu, 1-0 déjà donc pour les Bretons, 32 secondes de jeu, très exactement, il a fallu 32 secondes au Guingampais pour ouvrir le score, difficile de faire mieux hein, dans l'état d'esprit, dans l'entame de match pour les Bretons qui après le but ont eu deux occasions sur le but de Johan Pelé, sur le but c'est Marcus Coco qui dépose Sakai, l'arrière droit marseillais et le centre repris par Salibur, attention peut-être au Marseille avec la tête de Gomis, ça revient au point de pénalty avec Karim Rekik. Oh, il n'a pas frappé Rekik, c'est dommage, il est un peu trop temporisé, les Marseillais ont beaucoup de mal, évidemment ils se sont mis de sacrés bâtons dans les roues ici en Bretagne. 1-0 donc pour les Guingampais, 14 minutes de jeu.
À venir dans cette prochaine heure de l'intégrale Rio 2016, le porte-drapeau de la cérémonie de clôture qui sera à nouveau Teddy Riner. Est-ce que vous trouvez ça logique et normal ou est-ce que vous auriez peut-être aimé voir un médaillé olympique ou pourquoi pas un champion olympique français tenir le drapeau tricolore pour boucler la boucle de ces Jeux de Rio 32-16. Le Brésil a-t-il été un bon pays hôte au final, puisque je cite juste cette phrase, on en débattra dans quelques instants, la phrase de Thomas Barr, le président du CIO, ces Jeux ont été emblématiques et pas forcément les meilleurs, les plus beaux, les plus comme on a l'habitude d'entendre lors de la traditionnelle conférence de presse de fin de JO tous les 4 ans pour Thomas Barr. Du coup, est-ce un langage diplomatique pour dire que c'était pas forcément extraordinaire non plus, 32-16, mais on va tout de suite ouvrir le débat sur le bilan de l'équipe de France olympique, assurée donc de repartir avec au moins 42 médailles, 9 titres olympiques, record de Pékin battu, record qui était de 41 médailles, 7 titres à Pékin, il y en avait eu 11 titres olympiques à Londres, seulement 35 médailles. Quelle valeur a pour vous ce classement des médailles françaises? On vous attend au 32-16, hashtag RMC Live pour débattre avec Sarah Pitkowski et Serge. Je signale juste que le record absolu, c'est en 1900 à Paris, 103 médailles. On a changé d'ère depuis, mais c'était évidemment pour faire le record de l'ère moderne, hein, c'est 42 médailles côté français. Sarah, comment tu juges ce bilan en termes de médailles globales, 42, seulement 9 titres. Il y en a, on l'espère, qu'ils vont arriver hein, dans les prochaines heures, mais à l'heure où on se parle, il n'y en a que 9. Est-ce qu'il faut continuer à se baser sur le bilan global, se satisfaire de ça, ou peut-être plus regarder uniquement les titres olympiques?
Alors, je vais peut-être paraître un petit peu rabat-joise. Pour moi, il y a deux lectures sur ce fameux comptage de médailles. Très bien, on a battu le record de Pékin de 41 médailles. C'est très important sur la scène internationale de positionner la France comme un grand pays de sport, un pays qui est capable de gagner des médailles. Ça, c'est parfait. On est en 7e position avec les grands de ce monde. Après, la deuxième lecture, c'est le détail des médailles. Il y en a 9 en or, très bien. On n'est quand même pas tout à fait dans les clous des 11 dernières médailles. C'est quand même un petit peu juste, sachant qu'il y a quand même pas mal de finales qui ont été perdues, puisqu'il y a eu 17 médailles d'argent. Donc forcément, il y a donc 17 potentielles médailles d'or qui nous sont passées sous le nez. J'exagère forcément un petit peu. Et puis, l'autre lecture qu'on peut faire, c'est notre culture sur certains sports qui, selon moi, doivent absolument nous ramener des médailles et qui ne l'ont pas fait. On a une culture sur certains sports, je pense au cyclisme potentiellement, je pense à la natation, je pense au tennis. Ce sont des sports qui sont passés au travers. Ce sont des sports qui ont beaucoup de licenciés. On a une culture dans ces pratiques-là. On devrait être capable d'amener des athlètes près le jour J avec les moyens qu'on est capable de leur donner sur la préparation olympique. Et là, pour moi, il y a de la déception. Et le volant de progression qu'on pourrait avoir en termes de médailles, il se situe sur ces demi-échecs. Parce que je le compare à un autre pays qui est la Grande-Bretagne, et sincèrement, intellectuellement, je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à avoir un bilan aussi colossal de 66 médailles.
Je rappelle, hein, la Grande-Bretagne est deuxième au classement.
Deuxième
27 médailles d'or, 22 argent, 17 bronzes, juste derrière les États-Unis, devant la Chine.
Est-ce que le fait d'avoir eu les Jeux Olympiques de Londres, donc on revient quasiment 11 ans en arrière puisque c'est donné 7 ans avant, ils ont été capables de mettre des moyens, de cibler des sports, de se donner des priorités, au point qu'aujourd'hui, 4 ans après Londres, ils sont en train de récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. Mais chapeau. Et je pense que nous devrions être capables aussi de mettre des priorités pour faire pour que ce levier de médaille, il soit pas de 2-3 de plus que celle de la dernière Olympiade. On doit avoir un volant de progression plus important, selon moi.
Serge, tu as quelle lecture de ce bilan français, toi?
Ah ben je m'excuse parce que doublement, parce que un, je vais être ronchon aussi, et deux, je vais enlever la palme de la ronchonitude à Sarah parce que je vais être encore plus ronchon que
ça.
Ben
on y va alors. Pardon. Réagissez au 32-16, n'hésitez pas. Sarah. Vas-y, Serge.
Oui, moi j'ai la même lecture, mais en pire, c'est-à-dire que ce score, ce tableau des médailles, pour moi, ne veut pas dire grand-chose, mis à part l'émotion qu'il suscite à chaque fois par les victoires qu'il y a derrière ou les médailles qu'il y a derrière, dont acte. Je pense pas comme ça que ça nous situe sur la scène internationale. Je pense plutôt, par contre, que ça nous situe, les accessibles qui peut être distribué pour le ministre après. C'est-à-dire que c'est uniquement politique parce que on s'est petit à petit construit cette culture de la médaille et ça ne se mesure qu'à ça. C'est archi faux. Évidemment, la solitude.
Alors Serge, je te coupe, on y revient dans quelques instants. On va juste vivre l'arrivée du quintet en direct à Deauville. Ça va durer quelques secondes avec Sébastien Darras. Salut Seb.
Ouais, salut Loïc, salut à tous. Ils nous attendent pas les chevaux. Hein. Ils abordent le dernier tournant. Un non partant, je le rappelle, le 8, épreuve de longue haleine, épreuve marathon avec le peloton qui est emmené par le 4 Causabat depuis le départ. On est très pris de vitesse et c'est étonnant à l'arrière avec Vaudou des Ongrais le 10. Deuxième position, Desert Point, le 5, Moadjer, le 13, également au contact des premiers. On vient à l'extérieur avec Théo Dash, le 11, Brave Impact, le 7, ou encore Zambezo, le 16. On essaye de se rapprocher également avec la grise, c'est le 2, Versaline, qui va venir tout en dehors et qui va essayer de finir. Mais pour l'instant, c'est le 4, Causabat, qui a toujours les choses bien en main et qui essaye de prendre de vitesse ses adversaires. Il est toujours en tête à 350 mètres du poteau. On finit bien à l'extérieur avec Versaline, le numéro 2, et Julien Auger, qui va essayer de venir prendre l'avantage aux abords du poteau. On se défend toujours bien avec Causabat, avec Versaline, qui finit fort à l'extérieur également avec le numéro 16, Zambezo qui va bien prendre l'avantage. Zambezo qui va s'imposer, la deuxième place à voir entre le 14, il s'agit d'Agobert Duke, le 12 également Summer Quality qui a bien fini au centre, et le numéro 7, Brave Impact qui s'est bien défendu, Alzaro des Villerey qui doit se contenter certainement d'un accessible quoi qu'il en soit. Victoire du 16, Zambezo qui était à la cote de 6 contre 1, qui a attendu les 100 derniers mètres pour venir prendre le meilleur et s'imposer facilement d'ailleurs dans cette épreuve, dans ce quintet d'Auvillais. La deuxième place à définir, je le disais, entre le 14 d'Agobert Duke, 18 contre 1, le 12 Summer Quality qui était côté corde, qui était à la cote de 34 contre 1, qui j'ai vu dans la photo également, certainement Brave Impact. Le 7 avec Maxime Guyon, Brave Impact 4 contre 1, c'était l'un des favoris de cette épreuve. Et peut-être Alzaro des Villerey, l'as, le top weight de cette épreuve à la cote de 9 contre 1. Ce que je vous propose, 16, 12, 14, certainement pour les premières places, c'est d'attendre l'affichage de la photographie.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Revenons à notre débat, je te redonne la parole Serge. Quelle valeur a pour vous ce classement des médailles pour la France? 42 médailles assurées, je le rappelle, 9 titres olympiques à l'heure où on se parle. Serge.
Oui, et je terminerai. Si on veut vraiment jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire en faire l'alpha et l'oméga, ou que ça devienne primordial, le nombre de médailles aux Jeux Olympiques, et pourquoi pas, à ce moment-là, il faut faire autrement. Ça, c'est clair. Notre politique doit être différente, qui est beaucoup tournée vers le sport de masse, vers le sport lien social, vers le sport facteur de paix dans notre société, facteur d'insertion, tout le discours qu'on nous ressasse en permanence, et qui est vrai, d'ailleurs, pour lequel on donne pas beaucoup de moyens non plus. Mais on n'a pas, nous, une culture du sport d'élite, simplement. Et si on veut vraiment...
Un sport de performance.
Voilà. Et si on veut vraiment, à ce moment-là, jouer à ce jeu du comptage, eh bien, alors là, il y a mille idées à mettre en place pour les Jeux Olympiques. Et c'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Encore une fois, parce qu'on est bête, mais parce que c'est pas notre politique. On fait confiance aux fédérations, chacun dans son domaine, pour amener le plus possible d'athlètes au plus haut niveau et que ces athlètes performent aux Jeux Olympiques. Il y a d'autres États, la Grande-Bretagne, vous arrêtez pas de la citer, qui disent, ah ben non, mais nous, on va pas faire ça. Nous, on va mettre une cellule très particulière en place qui n'a d'objectif que de glaner les médailles olympiques. On va prendre les disciplines olympiques et puis on va regarder où est-ce qu'on peut aller chercher des médailles. Je donne juste un exemple. Ils ont recruté 70 000 jeunes
dans un programme dont j'ai oublié le nom, qui faisait partie de UK Sport, 70 000 jeunes, plus d'un mètre 80 pour les femmes, plus d'un mètre 90 pour les hommes. Désolé Sarah, t'étais pas invitée. D'ailleurs, moi non plus. Et ils ont pris, et en fait, dans ces 70 000, ils ont mis plein de critères de sélection. Par exemple, vous êtes ancien rugbyman, vous êtes ancien footballeur, vous n'avez pas réussi, vous n'êtes pas pro, etc. Mais vous avez une capacité physique, vous avez une capacité d'entraînement. Quelles sont vos habiletés? Dans quelle discipline olympique on pouvait vous rejeter? Et c'est ainsi que des gens qui n'avaient jamais touché une rame, comme Helen Glover, a été la première médaille d'or olympique à Londres, une femme qui n'avait jamais ramé avant, alors que elle est devenue championne olympique. Ça, c'est des idées, mais c'est contre nature chez nous. Nous, on laisse les fédérations détecter.
Je m'inscris dans ce que tu dis, Serge, parce qu'effectivement, dans le tennis, ils ont fait aussi un programme où, pendant l'espace d'un week-end, ils ont distribué 1000 raquettes à des tout petits, entre 4 et 6 ans. Et puis, ils vont aller en fonction d'un gamin ou d'une gamine qui est plutôt habile avec une raquette, ils vont aller les chercher et puis ils vont les former pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et on n'est pas, effectivement, dans la culture du beau geste, dans la culture de la pratique du sport, du bien-être, de l'équilibre psychologique et psychique.
Exactement.
Et nous, on a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on veut faire des choses qui sont belles, qui sont jolies. Et puis, si en plus, on peut sortir un champion avec ses belles valeurs et ses beaux messages, eh bien, tant mieux. Mais effectivement, on n'est pas capable de se fixer des objectifs et d'accepter que ces objectifs vont avoir des moyens et d'avoir des résultats et de mettre des récompenses en fonction des objectifs. On a peur de prendre l'objectif à bras-le-corps parce qu'on a peur de se tromper. Donc finalement, on prend pas de grandes décisions. On se laisse autour d'effectivement des fédérations.
Et puis les fédérations se laisseraient pas faire. Sarah, je sais pas si tu es d'accord avec moi.
Tu crois?
Mais je pense que les fédérations auraient du mal à abandonner certaines prérogatives pour l'élite, pour l'olympisme, me semble-t-il.
En fait, il faudrait créer des cellules de performance à l'intérieur des fédérations qui sont totalement indépendantes, qui dépendraient d'une institution qui soit au-dessus. Mais qui ne cherchent pas à ménager la chèvre le chou, c'est-à-dire qui ne doivent pas avoir que quelques résultats pour avoir des subventions et que ces subventions elles repartent à des clubs pour développer la pratique, mais que les subventions qui sont générées pour la performance soient
donc remettre en place une vraie cellule de préparation olympique qui existait un petit peu
Canu,
avant Pékin effectivement
et qui...
mais on nous a expliqué
avec Fabien Canu notamment
exactement Canu, mais Fabien Canu nous a expliqué qu'elle existe cette cellule, elle est juste distribuée différemment, mais qu'elle existe de manière intégrée à l'INSEP. Enfin, l'INSEP, c'est Paris, c'est intramuros, c'est pas là où se situe le plus grand nombre de pratiquants.
Mais tu vois ce qu'on fait les Grands Bretons, c'est pas simplement renforcer le parcours vers l'élite à travers par exemple une cellule olympique, c'est aussi se dire on va, et c'est très bien expliqué dans le discours de UK Sport, on va casser un petit peu cette logique. Et nous, au lieu de dire il faut qu'un champion, un champion c'est forcément 15 ans pour arriver à maturité, on va faire un champion en 4 ans. Pour ça, on va faire une espèce de sélection, mais générale, de tous les gens qui ont des aptitudes sportives, par exemple, hein, tu vois. Mais ça, c'est des idées. Encore une fois, c'est contre nature chez nous, puisque nous, on est pour ce sport, et école de rugby, club, etc. Voilà, la pratique sur le long terme, on se forme pendant longtemps, on vous rabâche qu'un champion, s'il a pas commencé à 5 ans, c'est terminé, etc. Eux, ils ont pris les choses à l'envers. Ils ont été, comme à chaque fois les anglo-saxons sont, on peut le critiquer, très pragmatiques. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette histoire de 10 ans, 15 ans, 20 ans?
Alors que nous, on s'appuie sur des normes qui existent. Des normes qu'on
c'est
a effectivement glanées auprès de certitudes et on ne veut absolument pas bouger de cette démarche. Donc, en fait, on peut se satisfaire des 42, 43, 45 médailles. Chapeau
avec ce modèle-là,
ce qu'on est capable de faire.
Oui.
Avec ce modèle-là, franchement, c'est fantastique.
On poursuit le débat avec vous au 32-16, d'accord ou pas avec Sarah et Serge. Venez nous le dire, on va faire un petit point sur les directs en cours. Le marathon, la pluie qui se calme un petit peu, Pierre-Yves, où en est-on?
Ça s'est arrêté de pleuvoir effectivement, mais la chaussée est toujours mouillée. 18 km de course à l'instant même, 56 minutes de déjà faites pour les concurrents. Il y a une quarantaine de concurrents maintenant qui sont en tête et ce n'est pas une surprise. On retrouve les Éthiopiens, on retrouve les Kenyans, les favoris de cette compétition. Biwott, Kipchoge sont là. Il y a également Berhanou, il y a Alemu Bekele. Une quarantaine de coureurs, je vous disais, on est dans la deuxième boucle qui les amène vers Botafogo. On reviendra ensuite pour cette troisième boucle. boucle et ensuite on prendra la direction du Sambodromo pour la fin de ce marathon qui est prévu dans maintenant un peu plus d'une heure.
Sébastien Dara, juste la photo finish du quintet pour le résultat définitif.
16, 14, 12, 15 et 7, 16, 14, 12, 15 et 7 pour le quintet finalement. L'As échoue aux portes de ce quintet.
Et puis le foot, Guingamp, Marseille, la deuxième journée de Ligue 1. Xavier Grimaud.
Et 28 minutes de jeu au Roudourou, c'est Guingamp qui mène 1-0 face à l'OM. Le but après 32 secondes de jeu signé Yanis Talibur, les Guingampais, qui ont eu l'occasion de doubler la mise, notamment par Jimmy Briand à la 15e. Magnifique contrôle orienté de la poitrine. Il a mystifié Doria et il a complètement pris de vitesse. Face à face avec Pelé, il a fallu une grosse parade main droite de Johan Pelé pour empêcher Guingamp de faire le break. Côté Marseillais, c'est famélique, hein, le bilan. Il y a juste un beau mouvement de Gomis il y a quelques instants. Il a mystifié. Il a laissé deux joueurs derrière lui. La frappe du gauche trop écrasée, tranquillement captée par Johnson. 1-0, c'est logique pour les Bretons après quasiment une demi-heure de jeu au Roudourou.
Quelle valeur a pour vous ce bilan de l'équipe de France Olympique ici à Rio? Venez nous le dire et répondre à Serge et Sarah au 32-16. Le standard est ouvert. Vous êtes les bienvenus. Hashtag RMC Live également pour réagir. A tout de suite.
RMC Intégrale Rio 2016. Loïc Braillet.
Avec Sarah Pitkowski, avec Serge Simon, on évoque le bilan de l'équipe de France Olympique, 42 médailles. D'ailleurs, il y aura la conférence de presse de bilan dans quelques instants, on va y revenir. Juste avant, si vous nous rejoignez sur RMC, on va vous récapituler les moments forts à ne pas rater pour cette dernière journée olympique. Et on espère de l'or pour les Bleus. 15h30 à Paris, 10h30 à Rio.
RMC, Rio 2016.
Les grands moments à venir avec Benoît Boutron.
Trois chances de médaille d'or française pour cette dernière journée des Jeux Olympiques de Rio. Ça démarre dans un peu moins de deux heures. Julien Absalon, double champion olympique de VTT, est en train d'aller chercher une troisième médaille d'or. Deux autres Français sont engagés sur cette épreuve de VTT, Victor Koretsky et Maxime Marotte. À 19h, finale du handball masculin entre la France et le Danemark. Les experts qui visent un troisième sacre consécutif. Et puis la boxe, 20h15, finale des super lourds avec le Français Tony Yoka. Pour l'instant, le bilan français est bon avec 42 médailles assurées, ce qui nous place à la 7e place du classement des nations. Cette journée se terminera par la cérémonie de clôture à partir de minuit, à suivre évidemment sur RMC.
À venir avant 11h également, cette question, le Brésil a-t-il été un bon pays hôte? On va revenir sur les dernières déclarations de Thomas Barr hein, lors de sa traditionnelle, enfin la traditionnelle conférence de presse de fin de jeu du président du comité international olympique des Jeux emblématiques, a-t-il dit. On va essayer de décrypter ce qui se cache derrière cette phrase peut-être très diplomatique justement, emblématique ces Jeux de Rio selon lui. Et puis le porte-drapeau de la délégation française pour la cérémonie de clôture de la nuit prochaine sera à nouveau Teddy Riner, comme il y a 4 ans. Laura Flessel avait fait l'ouverture et la clôture. Il y a plusieurs nations qui ont décidé de changer. Est-ce qu'il fallait peut-être donner cet honneur, cette responsabilité à un médaillé en or ici à Rio? Venez nous donner votre avis au 32-16. Serge, Sarah, on a écouté vos arguments sur le bilan et les réserves que vous émettez par rapport à ce chiffre de 42 médailles au moins hein, d'assurer pour les Bleus. Conférence de presse à midi de la direction de la direction de cette équipe de France olympique. Denis Masseglia, le patron du CNOSF, Francis Luce, le chef de mission, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport. Il y aura Teddy Riner également. On espère entendre autre chose que de l'autosatisfaction autour de ce bilan et donc de ce record qui est tombé entre guillemets de Pékin. C'est ça aussi qu'on a peut-être envie d'entendre et ne pas rester focus uniquement sur ce chiffre de 42 pour te rejoindre, Serge.
Oui, alors ça, effectivement, moi, s'il y a un bilan à faire, et sans reprendre du tout la discussion de tout à l'heure, s'il y a un bilan sincère à faire, c'est avons-nous eu toutes les chances de médailles, avons-nous concrétisé toutes les chances de médailles que nous avions? Voilà, et je pense, par exemple, à la natation. Donc j'ai
ouais. Hâte qu'on parle des sports qui ont raté aussi.
Les explications de Francis Luce, qui est chef de mission et président de la Fédération française de natation. Est-ce que on s'est donné tous les moyens dans les endroits où on avait des chances de médailles pour les avoir et les a-t-on eues? Et ça, c'est le côté négatif et c'est un vrai bilan à tirer. Et si on les a pas eues, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, quelles sont en tout cas les démarches entreprises pour tirer les conclusions, éventuellement les enseignements? Et puis, le côté positif des choses, quelles ont été les très bonnes surprises? Et là aussi, quelle sera l'analyse qui sera faite de ces bonnes surprises pour savoir si c'est simplement
par magie, ou si au contraire, il y a des très belles choses qui se sont faites là, qu'on pourrait pérenniser ou répliquer. Voilà, moi j'attendrai ça, ça serait formidable, mais je sais comment ça va se passer, hein, mon vieux. Te leurre pas, hein. On en a 42, on a battu le record de Pékin,
c'est génial,
on est les meilleurs, et c'est formidable, vive le sport, vive la France, vive la République.
Vive les Jeux de Paris 2024.
Et ça va enchaîner de suite sur les Jeux de Paris 2024, t'as raison,
exactement.
Sarah.
Exactement, c'est ça.
David est avec nous au 32-16, salut David.
Salut.
Bon, t'as écouté attentivement les arguments de Serge et Sarah, qu'en penses-tu?
Ah, moi je suis en phase avec Sarah complètement, je pense qu'il y a deux grilles de lecture de ce bilan des JO. Alors, d'une part, si on fait une approche globale, bien sûr que 42 médailles c'est super, voilà, c'est un record, c'est magnifique. Après, il nous manque quand même une certaine culture de la gagne comme peut l'avoir les anglo-saxons. Enfin, on voit vraiment que c'est énorme, d'ailleurs on a énormément de médailles d'argent et on a du mal à concrétiser et à les valider en médailles d'or. Et je pense que c'est plus une culture globale très française de se satisfaire d'une finale. Enfin, alors Serge va pas me contredire, on a trois finales, l'équipe de France de rugby a trois finales de Coupe du Monde. On a combien de titres? On en a pas. On se gosse d'aller en finale et derrière on perd. Et ça traduit vraiment, bon, on est un grand pays de sport, voilà, globalement, on est un peu partout, on est présent, mais il manque le petit truc qui fait que on va avoir énormément de médailles d'or.
On se donne une image d'un grand pays de sport, parce que tu vas dans certains pays, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, alors ils sont pas du tout sur le plan des médailles, mais quand tu vas sur ces territoires-là, tu comprends tout de suite ce qu'est la culture du sport. Et même ici, au Brésil, la culture du sport, du culturisme physique, qu'est-ce qu'on met derrière la culture du sport? Nous, on est les champions du sport dans notre canapé avec la télécommande, tu vois. Je suis pas sûr qu'on ait une grande culture du sport dans la pratique.
Bien sûr, c'est évident.
C'est pas tout à fait.
David, juste qu'est-ce que tu aimerais entendre? Bon, Serge vient de nous annoncer ce qu'on devrait entendre dans maintenant une heure et demie pour cette conférence de presse de bilan avec tous les dirigeants du sport français. Est-ce que tu aimerais peut-être juste entendre le fait d'assumer de pas forcément mettre tous les moyens pour être parmi les meilleures nations? Alors Denis Masseglia, juste je reprends ses déclats de début de Jeux Olympiques, puisque lui il avait vu quand même très juste, c'était sur RMC, il avait dit on a le potentiel pour atteindre voire dépasser le record de Pékin, si ça sourit et en fonction de ce qu'on a vu dans les précédents championnats du monde, on est capable d'atteindre ou dépasser le quota de 41 au classement des nations, on est capable d'être entre la 5e et la 9e place. Bravo Denis, finalement on est 7e, donc c'est pile dans cette tranche-là, mais on aimerait aussi les entendre sur ce qui n'a pas fonctionné, notamment en début de jeu, David.
Ah mais complètement, puis je veux qu'on arrête de mettre notre mouchoir dessus, qu'on se dise des choses. Enfin, quand je vois le bilan du tennis, le bilan du cyclisme sur piste, la conférence de presse de la natation, le psychodrame, le déballage de l'install devant tout le monde, enfin, ça traduit quoi? Enfin, c'est insupportable. C'est-à-dire, on ne peut pas véhiculer cette image et on passe encore pour des touristes. Les Anglais, j'entends pas de polémique. Voilà, ils sont tout le temps à essayer de faire mieux, à gagner. Voilà, qu'on se dise, ok, on est bien, on a les fondements, on a les bases. Maintenant, on va pérenniser le truc. L'objectif, c'est Paris 2024. On va tout mettre en œuvre pour aller toper le top 3, quoi. Ça, je veux dire, les Anglais, ils font mieux que les Chinois. On a quoi à leur envier aux Anglais? Ah, je suis désolé. Enfin, c'est un peu ou prou le même nombre d'habitants. Ouais, après, ils ont une autre culture, voilà, de la gagne, du sport, de l'esprit du sport, peut-être. Mais on n'a rien à leur envier. Il n'y a pas lieu. Hein. Enfin, on ne peut pas être au niveau... On est quasiment au niveau des Italiens. Enfin, c'est pas normal. On doit être dans le top 5. Voilà. On doit se donner les moyens.
Juste autre petite info, parce qu'on en donnait quelques-unes par rapport au fonctionnement de cette équipe britannique. Ce qu'ils font aussi, Sarah et Serge, c'est que ici à Rio, ils ont emmené des jeunes pour juste prendre la température, qu'ils soient dans l'atmosphère des Jeux Olympiques, qu'ils se rendent compte de ce que ça veut dire, avec des accès privilégiés évidemment sur les sites olympiques, au village olympique aussi. Ils sont pas encore à maturité, entre guillemets, pour concourir dans les différentes disciplines, mais ils font faire le voyage assez jeunes, déjà pour les sensibiliser et les acclimater entre guillemets au monde olympique. C'est quand même incroyable
en fait,
qu'ils font ça.
Ils sont pragmatiques, comme disait Serge, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à programmer, donc à prendre un certain nombre de sportifs, à les programmer. Et puis, malheureusement, ceux qui resteront au bord de la route resteront au bord de la route. Nous, on est dans le sport social, c'est-à-dire qu'on est dans l'accompagnement. Alors, c'est pour ça qu'on est tous en train de se gargariser de la boxe et des valeurs que prône la boxe, que ce sont des sportifs formidables qui ne viennent pas nécessairement de milieux aisés, mais qu'ils portent le drapeau avec énormément d'amour et c'est une équipe solidaire. Mais on n'accepte pas, nous, d'avoir de la casse. Et les Anglais, sont ça, ils vont en prendre 50, ils vont les programmer, puis ceux qui passeront pas, ils resteront sur le trottoir, c'est pas grave. Et c'est à l'image, et Georges Quirino nous l'avait bien expliqué, c'est exactement ce qu'ils font avec le cyclisme sur route, avec la Sky. C'est-à-dire que c'est quasiment robotisé, en fait. C'est-à-dire que tu rentres dans les clous, tu rentres dans les différents process, tu dois passer
programme,
des paliers.
En fait. C'est programmé.
Oui, c'est programmé. Ouais. C'est quasiment robotisé. Et ils ont pas d'état d'âme sur ceux qui passeront pas. Et nous, on est latins et on ne peut pas envisager la pratique du sport comme celle-là. Alors, je le disais il y a 5 minutes, effectivement, on pourrait se rapprocher des Anglais. Je pense qu'on pourrait prendre certaines choses. Je suis pas sûre qu'il n'y ait pas aussi de polémique de leur côté. Peut-être qu'on pourrait aussi aller voir du côté de l'Allemagne, parce qu'on est peut-être aussi un petit peu dans
l'Allemagne cinquième, hein, au classement des médailles.
Tu vois, ils sont peut-être un peu aussi dans notre lignée, dans la pratique du sport. Il faudrait qu'on trouve un terrain, un moyen de fonctionner entre l'Allemagne et l'Angleterre. Mmh. Et puis après, sur cette fameuse conférence de presse, effectivement, je suis pas sûre qu'on en tire des grands enseignements. En revanche, à partir de maintenant et pour les 8 prochains mois, toutes les fédérations vont renouveler leur présidence, parce qu'à chaque Olympiade, on refait
ah
des
bon
élections.
Tu es sûr?
Non, pas sûr.
Ah bah tu vois, ça m'avait échappé qu'il y avait des élections aux fédérations,
ça. Pourtant, t'en connais un rayon. Mais ceux qui nous écoutent, tu vois, descendent de la planète Mars et ne sont peut-être pas au courant. Et que là, il faut des nouveaux présidents. Et que là, il faut des nouveaux DTN. Et qu'il faut plein de Ganigalous. Tu vois ce que je veux dire?
Alors
peut-être
oui.
Qu'on peut insuffler des nouvelles tendances, voilà, ou
ça.
D'autres, tu sais quoi, je lance un appel,
ouais.
Les anciens sportifs qui s'investissent pour de vrai.
Oui, je suis d'accord.
Tu vois,
je suis d'accord avec toi.
Des anciens... je te déroule un tapis rouge, mais
non, mais par contre, moi je rajoute à ta demande, c'est que il faudrait, parce qu'en fait, c'est ça le cœur de notre discussion. Il faudrait qu'un jour on ait un ou une ministre des sports qui ait le courage de dire ce qu'est le sport en France. Voilà.
Oui,
c'est-à-dire,
voilà.
Et où on va.
Que le discours et la réalité soient pas
voilà. Et que le mec,
enfin,
il y a un moment donné,
voilà.
Où la fille, elle est les joues de dire, écoutez, on va arrêter de raconter des bêtises. Si on a des médailles au jeu, moi j'en suis ravi. J'irai faire la fête avec tout le monde. J'irai faire les photos qui vont bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et est-ce que nous, on est capable de l'accepter? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont capables d'accepter ce discours? Est-ce que les médias, les spectateurs, les consommateurs de sport sont capables d'accepter un discours qui va se heurter à, par exemple, l'opinion de David, qui va dire, ouais, on n'a pas la culture de la gagne, etc., etc. Ou alors, un ministre qui dit, bah, écoutez, moi, je pense que voilà, le sport de masse, on va continuer statu quo. Il est bien, il va bien, 175 000 associations sportives, c'est la plus grande association de France. Ils se démerdent avec ce qu'ils ont, parce qu'ils sont quand même dans une économie un peu désertique. Enfin bon, bon an, mal an, ça va. Il faut savoir que, petit chiffre, le ministère des Sports ne subventionne quasiment rien les clubs amateurs. Hein. Par exemple, 40% des budgets du sport amateur viennent des collectivités territoriales. Hein. C'est-à-dire conseils régionaux, conseils départementaux et municipalités. Hein, c'est pas le ministère des Sports. Et donc le ministre dit voilà, on va laisser ça en l'état. Par contre, moi, mon objectif, c'est dans 4 ans, je sais pas où seront les jeux. Dans 4 ans, je veux tant de médailles parce que c'est important, parce que c'est important pour notre pays, parce que c'est important pour je ne sais quoi, ma tante Adèle. Et je vais développer un programme très particulier. Et ben là, vous allez voir, je pense qu'il y aura des gens qui vont hurler en disant mais c'est n'importe quoi, culture de l'élite, bon voilà, enfin peu importe, il y aura forcément de discussions, mais c'est ça qui nous manque. Un ministre qui non pas qui suit ce qu'est le sport en France, mais qui le précède et qui en monte la direction.
Merci David pour ton appel au 32-16. Juste dernière petite question à toi Sarah et à Serge, vous savez ce que c'est la prime pour une médaille d'or pour les Britanniques?
Non,
zéro.
Je connais pour le 5.
Zéro.
Bah,
ah, tiens.
Zéro
ouais.
Euro.
Et quel enseignement tu en tires? Parce que ça a l'air d'être lourd de sens pour toi.
Non, c'est pas lourd de sens, c'est au contraire. C'était
non,
juste
mais c'est sans ironie. Hein.
Non, mais c'est preuve que les Britanniques, ils mettent même pas l'aspect pécunier en termes de motivation pour les athlètes, contrairement à nous. Nous, c'est 50 000. Hein,
ouais,
pour
enfin,
un
c'est ridicule,
français.
C'est imposable.
Oui, d'accord, c'est imposable.
Tu
bon,
vois ce que je veux dire.
Pour des athlètes qui galèrent peut-être pour vivre de leur sport, etc., bon, ça peut.
Ouais, bah c'est pas une juste récompense. c'est, selon moi, c'est pas une assez juste récompense.
Tout ça pour dire que les Britanniques mettent la valeur de la médaille, de la performance au-dessus de toute considération financière ou quoi.
Et
l'Azerbaïdjan, plus grosse prime, 450 000 pour une médaille d'or.
Ils en ont une, je crois.
Ah bon?
Non.
L'Azerbaïdjan. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a un Azéri.
Je crois qu'il y a un Azéri, alors je sais plus à trop quoi, mais il y en a un qui a une médaille d'or. Mais il y a le Singapour aussi. Il y a pas un.
750 000 dollars.
Là, ça change ta vie, quoi.
Alors, voilà. Sarah, Serge, on poursuit les discussions dans quelques instants, notamment sur le Brésil. A-t-il été un bon pays hôte? On va faire un nouveau point avant sur le foot, le match en cours. Guingamp-Marseille, Xavier Grimaud.
Et c'est la mi-temps. 1-0 pour les Guingampais. But ultra précoce. 32 secondes seulement de jeu. Salibur sur un super travail de Marcus Coco. Marseille a beaucoup souffert. Avantage logique, les Guingampais sont beaucoup plus en jambes que les Marseillais.
On est de retour dans quelques secondes. Brésil, bon pays hôte ou pas finalement. Et puis Riner, à nouveau porte-drapeau pour la cérémonie de clôture. Normal ou pas selon vous? 32-16, hashtag RMC Live.
RMC Intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
Avec Sarah Pitkowski et Serge Simon de la Dream Team Olympique, dernière journée de compétition ici à Rio pour ces Jeux. La France qui est déjà assurée de repartir avec 42 médailles, 9 titres olympiques et pourquoi pas quelques-uns en plus aujourd'hui à 17h30. Le VTT, Julien Absalon pourquoi pas pour une médaille d'or. À 19h, la finale du hand masculin France-Danemark. Les experts en lice pour apporter une troisième médaille d'or consécutive, ce qui n'a jamais été fait. Et à 20h15, la boxe et le dernier combat en finale de Tony Yoka en plus de 91 kilos pour, eh bien, pourquoi pas clôturer magnifiquement avec une deuxième médaille d'or pour la boxe française. Ce bilan qui est déjà de 6 médailles pour nos boxeurs et boxeuses. Le Brésil a-t-il finalement été un bon pays hôte ou pas? On vous pose la question. 32-16, je vais juste vous donner quelques phrases de Thomas Barr, le président du comité international olympique qui tenait il y a quelques jours sa traditionnelle conférence de presse de fin de jeu. On se souvient des dernières confs de Samaranch, de Jacques Rogge également, où traditionnellement on loue finalement l'hôte des Jeux Olympiques qui a organisé les plus beaux Jeux, les plus spectaculaires, etc. etc. Et finalement, sur cette conférence de presse, Thomas Barr a surtout dit « ces Jeux auront été emblématique. Il a été interrogé pour savoir si rétrospectivement il confierait de nouveau l'organisation des Jeux à Rio. Il a répondu oui. Bon, évidemment, il n'allait pas répondre autre chose. Et il a ajouté, les Brésiliens ont été des hôtes remarquables, unis derrière les Jeux Olympiques. Je cite encore Thomas Barr, ces Jeux vont laisser un énorme héritage en termes d'infrastructures grâce aux Jeux. Rio a grandement amélioré, entre autres, les infrastructures de transport auxquelles 63% des habitants ont désormais accès. Les Jeux ont montré qu'il était possible d'organiser cette compétition dans des pays qui n'ont pas les PIB, les produits intérieurs bruts, les plus élevés de la planète. Alors, est-ce que selon vous, le Brésil a été un bon pays hôte, finalement, malgré tous les soucis qui a pu exister également pendant la compétition? Sarah?
Eh bien, les jeux se sont déroulés. Je pense que c'est ça qu'il veut dire Thomas Barr.
Oui.
Non, mais c'est... Bah, ils se sont déroulés. On ne peut pas dire qu'il y a un succès populaire. On n'a pas croisé des gens avec des drapeaux brésiliens, on n'a pas vu un afflux massif de Brésiliens dans les différents stades. Il n'y a pas eu de succès populaire. En revanche, c'est un défi pour le CIO d'avoir cédé l'organisation des Jeux à un continent, l'Amérique du Sud, qui ne l'avait jamais eu, mm-hmm. avec un pays qui socialement est en crise depuis ces dernières années. Ça l'a été après la désignation de Rio ville des Jeux Olympiques. C'est la même chose. Il utilise des adjectifs parce qu'il peut pas dire autre chose.
C'est vrai que le mot emblématique, ça veut tout et rien dire. Hein,
oui, emblématique hein. Ça veut dire ok. On a pris le risque de donner à un pays qui a un produit intérieur brut qui est pas des plus élevés et un pays émergent qui était émergent lorsque ça a été désigné et un nouveau continent. C'est ça que ça veut dire emblématique. C'est-à-dire que ça laissera une trace. Effectivement, en termes d'infrastructure, je pense que c'est la trace la plus positive que ça laissera pour les cariocas ici. J'espère que ça leur facilitera la vie parce qu'il y a de meilleurs accès à différents quartiers. Après, je pense qu'ils vont mettre des décennies avant d'absorber les déficits qu'ils ont créés, quoi.
Serge, est-ce que le Brésil est un bon pays hôte selon toi?
Alors un bon pilote, oui, sans aucun doute, d'un point de vue logistique, parce que on nous a ressorti et on a été évidemment, on a fait partie de la symphonie fantastique d'avant-jeu, le fameux marronnier, ça va pas le faire, c'est impossible, les stades ne seront pas prêts, la peinture est pas sèche, etc., etc.
Ah, je te confirme, elle était pas sèche. Bon. Ça, je te confirme,
elle
était
pas
sèche
à certains endroits. Hein,
mais, oui, mais les jeux ont eu lieu, donc
c'est ça.
Tu vois, devant à chaque fois ces alertes incroyables dans lesquelles on dans laquelle on tombe tous, oui, etc. Donc oui, les jeux se sont déroulés. Un accessit quand même important, c'est que ça, c'était une vérité. Le Brésil était connu, notamment Rio, pour sa violence, les favelas, armées, etc.
Oui.
Ça, je pense pas que ça soit un fantasme d'occidentaux. Et de ce côté-là, de point de vue sécuritaire pur, les jeux se sont formidablement bien passé. On sait qu'il y a
eu ça et là
quelques petits trucs.
Et puis Zika aussi. T'as raison.
Effectivement, on nous a fait peur
et on a voulu mettre une alerte. Mais de ce point de vue-là, t'as tout à fait raison.
Voilà.
Serge.
Donc ça, je trouve qu'ils ont réussi leur coup et ils ont fait tout un travail en amont de sécurisation certainement du territoire qu'il faut louer. Donc ces jeux ont été peut-être emblématique de ce point de vue-là. Après, je partage complètement l'avis de Sarré. On en a parlé plusieurs fois à l'antenne ce matin. Ce seront pas des jeux qui rentrent dans la légende pour moi, parce que les jeux qui rentrent dans la légende, ils rentrent pour la légende pour deux raisons. En tout cas, c'est ce que j'ai dégagé moi ce matin dans les discussions. C'est un, soit la politique fait fraction à un moment donné dans une Olympiade. C'est Munich, c'est Mexico, c'est Moscou, c'est malheureusement, j'ai oublié le nom.
Pékin.
Pékin peut-être aussi, oui, ou l'attentat de Munich aussi, voilà. Oui. Munich 36 et puis l'attentat de Munich après, à l'ère moderne. Donc voilà, là ça rentre dans la légende et pour des mauvaises raisons. Ou alors ça rentre dans la légende parce qu'il y a ce qu'a dit Sarah, c'est-à-dire un soutien populaire massif. Et d'ailleurs pour des bonnes ou mauvaises raisons, parce que Pékin, tu parles de ça, certainement c'est qu'à un moment donné, il y a un pays qui se mobilise. Alors dans le patriotisme peut-être très sympathique ou moins sympathique si c'est un instrument politique, hein. Mais voilà. Là, ce sont des espèces de jeux qui embrasent tout un pays. Et je crois, oui, qu'on peut dire que ça n'a pas embrasé le Brésil, ça n'a pas embrasé le public brésilien.
Parce que c'était trop cher, je
ouais,
pense.
Ou si, ou là,
si
j'en sais rien. Mais tu sais, on a eu une auditrice formidable ce matin. Je la salue si elle nous écoute encore. Elle s'appelle Anna. Elle a été formidable. Et elle était franco, elle est franco-brésilienne. Et elle nous dit, n'oubliez jamais une chose, ou en tout cas, vous ne tenez pas compte d'une chose dans vos discussions, c'est que l'olympisme est un concept complètement étranger au Brésil. C'est-à-dire l'histoire de Coubertin, du truc et du machin. N'existe pas. Voilà, c'est nous, on a notre culture dans notre microcosme européen, français, donc de Coubertin, tiens, ça tombe bien, il vivait à Paris. Nous, c'est l'olympisme, on sait ce que c'est. Mais un Brésilien ne sait pas ce que c'est que l'olympisme.
Mais c'est pour ça qu'on s'est offusqué des réactions un peu démesurées du public, à la limite du fair play, mais parce qu'effectivement,
et
cet
pas
esprit
que nous,
olympique...
Les athlètes aussi, hein, se sont
oui,
plein,
mais
certains,
parce
hein.
qu'ils ont été surpris, mais tu as raison de le préciser, Serge, c'est parce que l'esprit olympique n'a pas de valeur,
de
on est fanatique.
Ouais.
On est religieusement investi derrière une équipe de foot, mais l'olympisme et le fair play, c'est une donnée qui ne considère pas. Quand tu vois que il ne lâche pas Renaud Lavillenie de ses propos ou jusqu'au point d'être jusque sur le podium, tu comprends et tu peux pas les incomber de ça parce qu'effectivement ils ont tout simplement pas la culture de l'olympisme qu'on a forcément plus en Europe.
Elle disait ce paradoxe, c'est que ce que tu disais, ouais. Sarah, il y a la culture du corps et du sport sur la plage de Copacabana, oui. Par exemple, mais elle disait il n'y a pas du tout la culture de la pratique sportive dans les écoles. Vous n'avez pas de PS, vous n'avez pas de trucs comme ça, on n'apprend pas à faire ci ou à faire ça aux gamins comme on le fait en France. Donc effectivement, il n'y a pas eu cette adhésion à l'olympisme en général qui peut rendre des jeux formidablement enthousiastes et je crois que c'est tout ce que vous avez ressenti tous là-bas. Moi, Porte de Sèvres, évidemment, c'était j'ai pas pu percevoir, mais à Paris.
Mais du coup, c'est vrai que ça restera comme une tâche, ça, quand même, Serge, de ces jeux. Au-delà d'organisation,
il faut pas demander des choses qui sont insurmontables.
La prétention que
d'anneaux olympiques qui vont transformer les pays en 15 jours. Mais on se prend
après,
pour qui en équipe pour juger ça.
Rappelons aussi quand même de Thomas Barr et son tweet sur Renaud Lavillenie et les sifflets inacceptables aux Jeux Olympiques. Donc ça l'a quand même touché aussi lui. Hein, donc bon voilà, ça, on retiendra ça aussi.
En tout cas, Thomas Barr est pas vrai. brésilien, à ce que je sache. Hein,
certes, tout à fait. Merci Sarah, merci Serge.
Salut, salut Sarah.
Va se renouveler.
Ciao, ciao, à bientôt. À très vite, Serge.
À bientôt à tous les deux. On va accueillir Jacques Monclar et Sophie Camoun dans quelques instants. Comment gérer un couple olympique dans une compétition? Le couple Estelle Mosselli et Tony Yoka, on va en parler dans quelques instants. Il y aura d'autres exemples aussi. Kevin Rabot, le directeur technique national de la boxe, sera avec nous en direct dans quelques instants. 32-16, hashtag RMC Live, on est dans l'intégrale Rio 2016.
RMC, intégrale Rio 2016.